Verrouas Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du lundi 19 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. L'armée tchadienne revendique plus de 300 rebelles tués et déplore la vie de 5 militaires samedi dans le nord. Au Mali, une quarantaine de morts dans des combats entre djihadistes et chasseurs traditionnels. Charles Blégoudé a affirmé que la CPI se penche sur l'obtention de son passeport en vue de rentrer en Côte d'Ivoire. Plus de 25 ans après le génocide des Tutsis, le rapport ouvre un nouvel espace politique entre le Rwanda et la France. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'armée tchadienne affirme avoir tué plus de 300 rebelles qui menaient samedi une incursion dans le nord du pays. 5 soldats ont également perdu leur vie dans ces combats. Le point avec Rosine Mounedzir.
Le général Azem Bermandoa Aguna, porte-parole de l'armée, a déclaré que plus de 300 rebelles ont été neutralisés samedi. Il a déclaré 5 morts dans les rangs de l'armée tchadienne. Il a également affirmé que 36 soldats ont été blessés et 150 rebelles faits prisonniers, dont 3 responsables. Samedi, le gouvernement avait affirmé que l'offensive rebelle dans les provinces du Tibesti et du Kanem avait pris fin. Mais des combats ont repris dimanche en fin d'après-midi, selon le général Bermandoa. La situation est calme en ce moment sur le front, il ne se passe rien, a-t-il ajouté ce matin. L'ambassade américaine à N'Djamena a ordonné samedi à son personnel non essentiel de quitter le Tchad, évoquant la possibilité de violence dans la ville. Le Royaume-Uni a également recommandé à ses ressortissants de quitter le pays dès que possible. Amin Abbasidik, le chef de la diplomatie tchadienne, a appelé certaines missions diplomatiques à garder leur calme. Selon lui, la situation n'est pas préoccupante et elle est bien maîtrisée par l'armée tchadienne.
La Cour suprême du Mali a confirmé aujourd'hui l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités, dont un ancien premier ministre et un animateur radio-vedette accusé depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État aux contours mystérieux. Le délibéré de la Cour suprême est sans appel, donc cette affaire est terminée, a déclaré Maître Kassoum Tapo, avocat de l'ancien premier ministre Boubou Cissé, principale figure du dossier. Toujours au Mali, une quarantaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre de présumés djihadistes et des chasseurs traditionnels dans le centre du pays. Ces combats ont fait un millier de déplacés. Claire Morégibourg.
Les affrontements ont eu lieu dans les communes rurales de Soyé et Fémaillé entre Mopti et Djéné, a indiqué lundi le gouverneur de la région de Mopti dans le centre du Mali, précisant qu'il y aurait une vingtaine de morts dans chaque camp. Des renforts de l'armée ont été déployés. Selon le gouvernorat, tout est parti d'une querelle entre deux frères, l'un chasseur traditionnel et l'autre évoluant avec les présumés groupes djihadistes. Une source sécuritaire affirme que les affrontements ont éclaté lorsque des chasseurs traditionnels ont décidé de rendre aux populations une partie du riz prélevé par les djihadistes au titre de la zakat, l'impôt islamique. Sidi Kidiara, le porte-parole des chasseurs traditionnels de Mégou, a confirmé que ces affrontements ont commencé le 12 avril et que les terroristes ont incendié 2 villages avant d'attaquer la localité de Maribougou. Selon lui, beaucoup de chasseurs sont morts et les rescapés se sont déplacés vers des villages voisins.
Au Cap-Vert, le parti de centre-droit au pouvoir depuis 5 ans a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives organisées hier dans l'archipel ouest-africain, a indiqué aujourd'hui la commission électorale. Le mouvement pour la démocratie du premier ministre sortant Ulisse Correira et Silva a décroché 37 sièges sur les 72 que compte le Parlement. Au Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées hier dans un incendie provoqué par l'accident d'un camion-citerne chargé de carburant. Il s'est renversé sur une route située dans la zone de Agatou, dans l'état de Benue, dans le centre du pays. L'incendie s'est propagé aux maisons et boutiques environnantes. Ce bilan pourrait s'alourdir, l'incendie ayant fait de nombreux blessés. La CPI s'est engagée à aider Charles Blégoudé à obtenir un passeport. L'ancien leader des jeunes patriotes ivoiriens l'a annoncé lui-même. Il a récemment été acquitté par cette cour. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon Charles Blégoudet, la CPI a pris l'engagement de mener les démarches pour l'obtention de son passeport à l'issue d'une réunion le 6 avril avec le greffe. Il ajoute que tous les documents nécessaires pour l'établissement de son passeport ont été remis à la CPI. Le président Alassane Ouattara a donné le 7 avril son accord au retour en Côte d'Ivoire de son prédécesseur Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet une semaine après leur acquittement à la Haye. Contrairement à Laurent Gbagbo, qui aura droit au traitement réservé aux anciens présidents et dont le voyage de retour sera pris en charge par l'État, M. Ouattara n'a pas mentionné de disposition particulière concernant Charles Blégoudet, qui lui a toutefois exprimé sa gratitude pour son geste. Arrêté en 2013 au Ghana, M. Blégoudet, surnommé le général de la rue, a été transféré à la CPI à la Haye en 2014 pour être jugé pour crime contre l'humanité aux côtés de Laurent Gbagbo. Tous les deux ont été définitivement acquittés le 31 mars.
Toujours en Côte d'Ivoire, quelques 200 salariés du quotidien public Fraternité Matin ont déclenché aujourd'hui une grève pour réclamer le départ de leur directeur général adjoint, Serge Abdel Nouro, qu'ils accusent de mauvaise gestion. Un audit interne a révélé 600 millions de francs CFA de recettes volatilisées, de nombreux achats injustifiés, des décaissements non réglementaires. Fraternité Matin est le plus grand tirage de la presse ivoirienne. Le rapport publié par le Rwanda sur le rôle de la France dans le génocide en 1994 et la réaction de Kigali, excluant la complicité de Paris, ouvre un espace politique nouveau pour se projeter vers un avenir commun, a réagi aujourd'hui la présidence française. Le point avec Michel Joseph.
L'Élysée souligne que la France se félicite que les autorités rwandaises excluent des poursuites judiciaires par la voix de Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie rwandaise estime que la publication de ce rapport, quelques semaines après celle du rapport d'une commission d'historiens français, concluant à des responsabilités lourdes et accablantes de Paris dans la tragédie, va contribuer à la réconciliation entre la France et le Rwanda. L'enquête de près de 600 pages, commandée en 2017 par le Rwanda au cabinet Levy Firestone Muse, qualifie la France de collaborateur indispensable du régime Hutu qui a orchestré les massacres. Ces deux rapports ont le point commun d'ouvrir un espace politique nouveau, a réagi l'Élysée. Selon la présidence française, le président rwandais Paul Kagame sera reçu le 18 mai à Paris dans le cadre d'un sommet sur le financement des économies africaines en rappelant qu'Emmanuel Macron a l'intention de se rendre au Rwanda cette année. Même si les relations entre les deux pays se sont détendues avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, le rôle de la France au Rwanda reste un sujet explosif depuis plus de 25 ans. Il est aussi l'objet d'un débat violent et passionné entre chercheurs universitaires et politiques.
Au moins 11 personnes, dont des députés provinciaux et un journaliste, ont été blessées hier lors de la répression d'une manifestation contre le gouverneur de la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, des habitants du Cap ont été évacués aujourd'hui alors qu'un incendie qui s'est déclenché la veille sur Table Mountain, sommet emblématique surplombant la ville, se dirigeait vers le centre urbain.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réquisitoire dans le procès du meurtre George Floyd, un Africain-Américain à Minneapolis. L'accusation et la défense ont une ultime occasion de faire pencher la balance auprès de l'ancien policier blanc Derek Chauvin avant de laisser le jury délibérer. Les négociateurs réunis à Vienne depuis début avril pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien ont commencé à plancher sur la rédaction d'un texte selon l'ambassadeur russe, même si une solution définitive n'est pas pour tout de suite. Reste à déterminer quelles sanctions Washington doit lever. Le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a prévenu hier que la Maison-Blanche ne levera les sanctions qu'en échange de la certitude que Téhéran va pleinement revenir à ses engagements. L'Union européenne a déploré aujourd'hui par la voix de son chef de la diplomatie une montée des tensions avec la Russie jugeant très dangereuse la situation aux frontières avec l'Ukraine. Il tient par ailleurs Moscou pour responsable de l'état de santé de l'opposant Alexei Navalny. La Russie a fait hospitaliser aujourd'hui l'opposant en grève de la faim Alexei Navalny, tout en jugeant son état satisfaisant. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Au Togo, plus de 400 entreprises et quelques 1500 particuliers ont obtenu des banques des reports d'échéance pour 28 milliards de francs CFA, conformément à la mesure d'assouplissement mise en place par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest au début de la pandémie. Les banques ont accordé 590 milliards de francs CFA de nouveaux crédits en 2020, portant le montant total des créances à 1306 milliards. Le gouvernement burkinabé a autorisé des entreprises publiques à prendre des parts au capital social de la future banque postale du Burkina Faso. Il a notamment donné son accord pour une prise de participation de la loterie nationale burkinabé pour 1,2 milliard de francs CFA, soit 8% des parts sociales conformément à la réglementation des sociétés à capitaux publics. Au Gabon, la production d'alléage de manganèse a baissé de 23% en 2020, indique le ministère de l'Économie. Le complexe métallurgique de Moanda a connu des dysfonctionnements avec l'arrêt définitif de l'activité d'électrolyse en septembre. Le ministère note toutefois une consolidation de 14,7% du volume des exportations en raison de l'évacuation des stocks de silico-manganèse accumulés sur ce site de production.
Sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Comme il fallait s'y attendre, l'UEFA a fustigé la création hier de la Super League lancée par 12 équipes de football. Le patron du foot européen, Alexander Seferin, parle d'une proposition honteuse de quelques clubs guidés par l'avidité. Il compare cette compétition, je cite, à un crachat au visage de tous les amoureux du football. Ces déclarations sont intervenues à la faveur de l'adoption ce lundi par le comité exécutif de l'UEFA de la réforme de sa compétition phare, la Ligue des Champions, à partir de 2024, impliquant le passage de 32 à 36 clubs avec un mini-championnat en guise de phase de groupe. Nous reviendrons sur cette Super League dans la partie magazine de cette édition. Toujours en Europe, c'est fini entre Tottenham et José Mourinho. Le club anglais a annoncé ce lundi que son entraîneur portugais et tout son staff ont été relevés de leurs fonctions 17 mois après leur arrivée chez les Spurs pour remplacer Mauricio Pochettino, leader de Premier League à la mi-décembre. Tottenham est actuellement 7e à 5 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Après 32 journées, les Londoniens doivent jouer mercredi un match en retard de la 29e journée contre Southampton. Ils doivent ensuite disputer dimanche la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City à Wembley. Mourinho sera remplacé pour le moment par Ryan Mason, ancien joueur de Tottenham et qui était l'entraîneur des moins de 19 ans. Ici, aux États-Unis, début hier du championnat nord-américain de football MLS, l'Inter Miami s'est incliné 3 buts à 2 contre le Los Angeles Galaxy pour son premier match de la saison. De son côté, le Columbus Crew, champion en titre, a débuté par un match nul 0-0 contre Philadelphia Union. Les Vancouver Whitecaps ont, eux, remporté leur match contre les Portland Timbers 1-0 grâce à un but du Canadien Lucas Cavallini. On reste ici aux États-Unis pour finir avec du basketball. Les résultats de la nuit dernière avec Bagasikura.
Oui, le Miami Heat a renversé la situation en toute fin de match pour s'imposer au buzzer 109 à 107 contre les Brooklyn Nets qui ont également perdu leur superstar Kevin Durant, encore blessé, victime d'une contusion à la cuisse gauche. De leur côté, les Los Angeles Clippers se sont promenés contre Minnesota 124 à 105 tandis que les New York Knicks, eux, ont battu sur leur parquet les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 122 à 112. Il y avait un match de phénomène dans le match, celui entre Julius Randle pour les Knicks et Zion Williamson pour les Pelicans. Au 34,9 rebonds du surpuissant Williamson, l'ailier fort des Knicks a répondu avec 33 unités, 10 passes et 5 interceptions pour porter la franchise new-yorkaise à un succès arraché après prolongation.
Bagasikura, merci.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Mali, Sidi Ibrahim Ould Sidat, président de CMA, a été enterré vendredi à Ber dans la région de Tombouctou, une semaine après son assassinat. C'est lui qui avait signé les accords de paix d'Alger au nom de l'ancien groupe rebelle. Depuis sa mort, beaucoup se demandent qui a fait tuer Ould Sidat et aussi ce qu'il adviendra du processus de paix. De Tombouctou, la correspondance de Al-Husseini Al-Hadji.
Ce 18 avril, Jamal Nosra Wal Muslimin, dirigé par Iyad Agali, a démenti à travers un communiqué son implication dans l'assassinat du patron de la CMA. Deux suspects ont été arrêtés depuis la mort d'Ould Sidat. Son décès est une grosse perte à la fois pour la communauté arabe et pour le processus de paix, a estimé Mohamed Mahmoud Oud Al-Umrani, doyen des chefs de la communauté arabe.
Et il est mort pour le Mali. C'était un homme exceptionnel qui connaissait ce pays, qui aimait ce pays, à la fois le Mali, le Nord, les populations du Nord. Et il était un leader patient. Nous avons reçu plusieurs délégations de partis politiques maliens, du gouvernement dirigé par le Premier ministre, des représentants des grands pays qui sont liés à la médiation.
Le Niger, qui est aux côtés du Mali dans la mise en œuvre du processus de paix, a envoyé un émissaire à Tombouctou pour présenter ses condoléances et assister à l'enterrement d'Ibrahim Ould Sidat. Pour Mohamed Sidi Ali, envoyé spécial du président Mohamed Bazoum, la perte de Sidat est un coup dur pour la suite du processus de paix et le Niger s'en inquiète.
Beaucoup de choses parce qu'il a signé les accords de paix et les faits et médiations au Niger, il est venu, il a fait beaucoup de choses. Et vraiment, c'était un homme de l'Afrique toute entière.
L'assassinat d'Ibrahim Ould Sidat pose la question de la sécurité des leaders de la CMA qui la représente au sein du comité de suivi de l'accord. Le gouvernement doit prendre des mesures pour éviter que ce qui est arrivé à Ould Sidat ne se produise plus, a martelé Al-Mouag Mohamed, le porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad.
Ceux qui ont arraché le président Sidi Ibrahim Ould Sidat à notre affection n'ont pas fait des cadeaux au processus de paix, parce que c'est un homme qui a conduit avec brio le processus de paix depuis la signature de l'accord jusqu'à nos jours. La sécurité des cadres de la CMA qui évolue au sein des structures de mise en œuvre de l'accord à Bamako incombe au gouvernement malien.
Ould Sidat repose désormais au cimetière de Ber, situé à 60 km de Tombouctou, dans cette ville où il a vu le jour et dont il est le maire jusqu'aux événements de 2012. C'est aussi lui qui a signé l'accord pour la paix et la réconciliation en 2015 au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. Al-Husseini Al-Hadji pour VOA Afrique depuis Tombouctou.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En Europe, après des décennies à agiter le spectre d'un chiisme, les cadors du continent, Real Madrid, Liverpool ou Manchester United en tête, ont franchi le pas en créant une société privée baptisée Super League, suscitant le courroux de certains fans et dirigeants du football européen et mondial. Des explications avec Yacouba Ouedraogo.
12 clubs, l'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l'Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham sont à l'origine de la création de cette Super League, une sorte de Ligue des champions privée qui se jouerait en milieu de semaine. Problème, la Ligue des champions, compétition phare de l'UEFA, qui se joue aussi en milieu de semaine, se voit menacée, d'où le courroux du patron du foot européen, Alexander Seferin, qui parle d'une proposition honteuse de quelques clubs guidés par l'avidité, un avis partagé par certains supporters comme Zakaria, rencontré dans les rues de Paris.
Personnellement, ça tue le principe du football. C'est-à-dire qu'on aura plus de surprises comme l'Ajax ou même l'Atalanta qui sont passés en quart ou en demi-finale. Et voilà, ça base sur la richesse du club, sur le championnat servira à rien.
C'est aussi là un point de désapprobation récurrent qui participera à cette compétition et sur la base de quels critères? Selon ses promoteurs, la Super League fonctionnerait sous la forme d'une saison régulière opposant 20 clubs, 15 membres de droit, les 12 clubs fondateurs et 3 supplémentaires restants à déterminer et 5 autres équipes choisies selon leur performance de la saison précédente. En France, le Paris Saint-Germain a été approché mais n'a pas donné suite. Côté allemand, le Bayern Munich et Dortmund se sont prononcés contre le projet. Emmanuel Madouda, parisien, pense que ces clubs pourraient regretter leur refus.
Je pense que c'est une bonne chose qu'on voit aussi d'autres mouvements se créer sportifs. Puis voilà, en Paris Saint-Germain et Bayern de Munich, ils ont tort de refuser tout de suite. Hein. C'est quand ça va prendre l'ampleur et que tout le monde s'adhère à ça, et ils seront mal vus, hein, des traîtres.
Ces clubs qui ne feront pas partie verront surtout de l'argent s'échapper sous leurs yeux. Selon les promoteurs, les clubs fondateurs recevront un versement en une fois de 3,5 milliards d'euros. La banque américaine JP Morgan confirme qu'elle va financer le projet. Ils disent aussi attendre des recettes supérieures à celles obtenues par l'UEFA pour l'ensemble de ces compétitions de clubs, Ligue des Champions, Ligue Europa et Supercoupe d'Europe qui ont généré 3,2 milliards d'euros de droits de télévision en 2018 à 2019. Justement, d'autres supporters pensent que seul le gain financier guide les initiateurs de cette Super League. Dans les rues de Rome, en Italie, Ivano est supporter de l'AS Rome.
C'est toujours une question financière, c'est une question de lobby et d'argent. Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet, c'est juste du business.
L'UEFA prévient que tout club qui participerait à cette Super League serait exclu des compétitions nationales et internationales et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale. La FIFA, elle, s'est contentée de dire qu'elle ne peut que désapprouver une ligue européenne fermée et dissidente. En attendant, la compétition est censée commencer en août. Une première phase opposera 2 groupes de 10 équipes en 18 journées. La seconde se fera sous la forme de play-off jusqu'en mai pour décerner le trophée.
Le drame d'une série des fusillades de masse aux États-Unis divise les Américains sur la façon de réduire le carnage causé par l'utilisation des armes à feu chaque année. Mike O'Sullivan de la VOA a rencontré des experts pour aborder les solutions possibles. Le récit est de Rosine Mounezer.
La violence par arme à feu meurtrit l'âme de la nation américaine, a déploré vendredi le président Joe Biden après la dernière fusillade dans un centre de tri postal d'Indianapolis qui a fait au moins 8 morts. Le président a ordonné la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics fédéraux. Auparavant, le 12 avril, une fusillade dans une école de Knoxville dans le Tennessee a causé la mort d'un élève et un policier a été blessé. En Géorgie, le mois dernier, 8 personnes ont été tuées dans 3 salons de massage. 6 victimes étaient des femmes d'origine asiatique. 10 autres personnes ont été abattues moins d'une semaine plus tard dans un marché du Colorado. En Californie aussi, le 31 mars, il y a eu 4 morts, dont un garçon de 9 ans. Face à ces drames à répétition, les autorités ne savent plus que dire ou redire. Le président Joe Biden.
Je déteste même le dire parce que nous le disons si souvent. Je suis écœuré, nos pensées vont aux survivants.
La réalité est encore pire. L'an dernier, près de 20 000 Américains sont morts à la suite des violences armées. 24 000 autres se sont suicidés avec des armes à feu. Toutefois, la possession des armes à feu est un sujet qui divise profondément les Américains. Adam Winker, constitutionnaliste à l'Université de Californie.
Nous avons beaucoup de gens qui pensent qu'il y a trop d'armes à feu et que la clé pour réduire la violence récurrente aux États-Unis, c'est de limiter l'accès à ces armes ou de restreindre l'accès à certains types d'armes. Une autre partie est fermement convaincue que le seul moyen pour réduire la violence est d'avoir plus d'armes.
Selon une étude faite en 2017 par le centre de recherche Pew, au moins 40% des Américains possèdent des armes à feu, ce qu'ils considèrent comme un droit garanti par la Constitution américaine. Combler ce fossé sera difficile selon Adam Winker, auteur d'un livre décrit la polarisation sur le sujet, mais note que les États ont resserré les restrictions. La violence armée est un problème de santé publique pour l'écrivain et analyste Hemingway de l'université Harvard.
Selon lui, notre durée de vie a doublé au cours de cette période grâce à une meilleure santé suite au contrôle des maladies infectieuses et d'autres mesures.
Nous n'avons pas interdit la cigarette, mais nous avons fait beaucoup mieux avec les cigarettes. Nous n'avons pas interdit les voitures, mais nous avons fait beaucoup mieux en matière de sécurité automobile.
Selon lui, les améliorations de la sécurité routière pourraient servir de modèle. En 60 ans, les décès par distance parcourue ont chuté de 85% grâce aux ceintures de sécurité, aux sacs gonflables, colonnes de direction et d'autres mesures. Aucune solution unique ne va éliminer la violence armée, mais utiliser des expériences du monde réel pour déterminer ce qui est efficace a impliqué les propriétaires d'armes à feu. Les droits et la réglementation des armes à feu font partie de l'histoire des États-Unis. Le professeur Adam Winker estime qu'il sera difficile de trouver un terrain d'entente dans une nation divisée. Il affirme que les États sont en train d'élargir les vérifications des antécédents et combler les lacunes tout en respectant le droit de porter des armes.
Ce que je pense que nous devons faire en tant que société, j'espère, c'est que nous puissions aller au-delà des extrêmes, à côté disant que nous avons le droit de porter des armes, donc aucun contrôle, et de l'autre côté disant que nous n'avons pas le droit de porter des armes, donc plus de contrôle, et non aux armes à feu.
Les experts estiment que la violence armée ne sera jamais complètement éliminée et que les conversations seront toujours difficiles dans un climat polarisé. Toutefois, les Américains doivent trouver un terrain d'entente pour réduire le nombre de tragédies.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des plaidoiries au procès d'Eric Chauvin commencent aujourd'hui à Minneapolis, dans le Minnesota. Un ancien policier blanc est accusé de meurtre et d'homicide involontaire dans la mort en mai 2020 de George Floyd, un Africain-Américain. Michel Quinn de la VOA revient sur les tensions autour de ce procès. Le récit est de Salwa Jafari.
Minneapolis ainsi que d'autres villes des États-Unis se préparent au verdict dans l'affaire d'Eric Chauvin. Dans certaines régions, la sécurité est renforcée alors que le policier attend de connaître son sort dans l'affaire qui a conduit à des manifestations dans le monde entier. Il encourt plusieurs années de prison s'il est reconnu coupable. Benjamin Crump est avocat. Il représente la famille George Floyd ainsi que la famille de Dante Wright, décédé après qu'un policier a tiré avec son arme plutôt qu'avec un pistolet taser.
Le résultat que nous souhaitons est que Chauvin soit tenu pénalement responsable du meurtre de George Floyd, car nous pensons que cela pourrait être un précédent pour que l'Amérique soit enfin à la hauteur de sa promesse de liberté et de justice pour tous.
Les procureurs ont appelé des témoins qui ont déclaré que Floyd est mort parce que Chauvin avait appuyé son genou sur sa nuque pendant plus de 9 minutes, le privant d'oxygène. Des témoins disent que Floyd a fait savoir à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer. La défense soutient que Floyd est décédé d'une crise cardiaque provoquée par l'hypertension artérielle et la consommation de drogue. Chauvin a arrêté Floyd parce qu'il a été soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de $20 en mai de l'année dernière. Pendant ce temps, les services de police à travers les États-Unis se préparent à faire face à des manifestations éventuelles. La tension est particulièrement vive à Ferguson, dans le Missouri. Jason Armstrong est le chef des forces de police de Ferguson.
Et c'est une situation difficile pour nous à gérer et nous suivons le procès pour voir comment les choses se déroulent avec la notion que si Derek Chauvin n'est pas trouvé coupable, nous verrons probablement une vague de frustration suite au verdict.
La frustration et la colère qui entourent la mort de Floyd et de celle d'autres minorités dans des affaires impliquant l'application de la loi surviennent alors qu'un groupe bipartite de dirigeants du Congrès discute d'un projet de loi sur la réforme de la police. Le George Floyd Justice in Policing Act, qui interdirait les étranglements et mettrait en place un registre national des fautes policières et autres mesures, a été adopté par la Chambre des représentants en mars sans le soutien des Républicains. Pour passer l'étape du Sénat, le texte aura besoin du soutien d'au moins 10 Républicains.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Joseph Morissin, Georges Léonard Sagnon et Lionel Monami Lagahima. Eric Rania qui a été à la présentation. Ici Val au Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.